CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver sur notre plateau aujourd'hui encore. Notre thème du jour est « Pourquoi aimez-vous tant les choses du monde ?» Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, comme chaque vendredi, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai reçu Annabelle qui nous a partagé comment elle a rencontré Jésus. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde.
Bonjour Yveline.
Comment allez-vous ce dernier jour de la semaine?
Ça va super bien.
Ça va bien, super. Vive le week-end, hein.
Oui.
Vous sentez fatigué?
Ah, c'est la fin de semaine.
C'est la fin de semaine, c'est ça, hein.
Ouais, il semble fatigué. Toi, Gwen, est-ce que t'es fatigué?
Absolument pas. Je suis dans une forme olympique.
Oh, c'est merveilleux. Olympique. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration en courant?
Absolument pas.
De la table?
Je suis dans une forme olympique. J'ai mis un hologramme.
Il est en train de dormir en pédagogie.
Absolument pas.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux. Alors, ressaisissez-vous, ok? Pourquoi aimez-vous tant les choses du monde? Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, comment ne plus aimer les choses du monde? Dis-nous tout.
En effet, Yveline, et puis pour vous qui êtes à la maison, j'ai intitulé la pensée « Comment faire pour ne plus aimer les choses du monde? » Et on va être clair dès le départ, il y a des choses dans la vie qu'on a le droit d'aimer, évidemment. Mais la parole de Dieu nous parle dans 1 Jean, chapitre 2, les versets 15 à 17, on va lire ensemble. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et puis là, vous allez me dire, ben justement, j'ai de la difficulté avec certaines choses dans ma vie. Je veux toujours avoir ce qui est le plus nouveau. Je veux convoiter ce que l'autre a. Je ne semble pas être rassasié par rapport à le matériel que j'ai, les biens que j'ai. Il y a des gens qui ont des difficultés avec toutes sortes de choses dans leur vie. Ouais, on pourrait parler même du péché, toutes sortes d'affaires. Et là, vous allez me dire, mais comment faire pour ne plus prioriser les choses du monde dans ma vie? Comment faire pour que ces choses-là n'aient plus une emprise sur moi? Et puis la réponse est très simple. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Jésus. Quand tu deviens intime vraiment de Jésus, quand tu viens que tu le connais personnellement, que tu viens que tu l'aimes de plus en plus, les choses du monde vont pâlir. Mm-hmm. Et je vais le redire, les choses de ce monde vont pâlir parce que tu vas venir qu'à t'affectionner aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Comme l'apôtre Paul l'a tellement bien dit dans son épître aux Colossiens, et puis, quand on est de nouveau, on vient qu'on a le Saint-Esprit en nous, il y a vraiment la nouvelle naissance qui s'est passée. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on commence tout juste la vie chrétienne. Et puis, on va commencer ce qu'on appelle la sanctification. Et puis, les gens vont souvent prendre ce mot-là, sanctification, par rapport à des gros péchés, des gros trucs. Et maintenant, en fait, c'est d'être mis à part, d'être séparé des choses de ce monde pour se consacrer à Dieu. Et puis là, quand tu le vois d'un autre œil, tu vois de cet angle-là, tu dis, ouais, ce mot-là, il faisait peur, c'est des trucs, le péché, tout le temps, des gros... Non, c'est tout au long de notre vie, en fait. On doit grandir dans la sanctification. Et de plus en plus qu'on va grandir là-dedans, de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses du monde vont pâlir. Mmh. C'est tellement simple. On peut se casser la tête. J'ai pas envie de vous donner 15 points, 15 clés pour être libre des choses de ce monde. Si on pourrait juste s'affectionner à Dieu, de tout notre cœur, fléchir le genou, venir qu'à être un intime de lui de plus en plus. Je vous le dis, les choses présentes, temporaires, vont vraiment prendre le côté. Et ceci dit, oui, on est pour la bénédiction. Dieu, il veut qu'on ait des belles choses. Et même, il le dit dans Matthieu 6, 33, ne vous inquiétez pas de toutes les choses matérielles. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et puis, toutes ces choses-là, je vais prendre soin de vous. Toutes ces affaires-là dans votre vie, vous allez les avoir. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, tout ce que l'apôtre Jean a dit, n'aimez point les choses de ce monde, c'est-à-dire de les préférer, de rechercher ces choses-là premièrement, d'avoir un désir pour ces affaires-là. Quand on va venir qu'être proche de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on va venir qu'à avoir vraiment cette libération-là, et puis notre cœur va être tourné vers lui. Dans Matthieu, chapitre 6, le verset 21, la parole nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Et c'est un verset qu'on peut enseigner à des enfants, mais ça va pour toute l'humanité. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et encore là, ça revient à la même chose. Si tu t'affectionnes, tu t'accroches à Dieu, ton cœur va être tourné vers lui, tu vas voir ton trésor va être là, tu vas vouloir vivre pour l'éternité parce que tu deviens que tu es conscient qu'il y a des choses qui sont éternelles devant toi. Les choses de ce monde vont être secondaires et ça se fait tout simplement surnaturellement, je l'ai vécu. Les choses dans ma vie qui pouvaient me tenir captif autant que c'était des choses du péché, la musique que je pouvais écouter, les choses que je pouvais faire, les paroles qui sortaient de ma bouche, ces choses-là ont quitté ma vie tout simplement parce que je me suis rapproché de Dieu. Il n'y a pas mille et une clés à avoir pour vivre ça. On a juste besoin de devenir de plus en plus intime. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont déçues de ma réponse parce qu'ils vont dire « mais ça semble trop simple ». Mais en effet, c'est tellement simple. Recevez le message aujourd'hui. Devenez un intime. Demeurez dans la présence de Dieu. Restez proche de Jésus. Et demeurer, ça veut dire « restez là ». Parce qu'il y en a, et la parole nous le dit. On peut même le voir ensemble dans 2 Timothée, chapitre 4, la parole nous dit « Viens au plus tôt vers moi », et c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. On peut venir qu'à s'éloigner de Dieu, s'éloigner de vraiment que notre relation se refroidisse, et les choses du monde vont revenir vers nous, ça je vous le garantis. L'ennemi va faire tout ce qu'il voudra. Il va essayer de toutes ses forces de venir vous déranger, vous attirer par les choses de ce monde. Et puis, on l'a même vu dans la parole de Dieu, Démas a été attiré par les choses du siècle présent. Demeurez, restez accrochés à Dieu et les choses de ce monde vont pâlir. Il y a un chant en anglais, Evelyn, qui dit « Turn your eyes upon Jesus and the things of this world will fade away. » Ces choses-là vont pâlir, c'est ça, ils vont tout partir et c'est tellement merveilleux. Ça peut être compliqué pour vous aujourd'hui. Faites juste demeurer dans la présence de Dieu, accrochez-vous à lui. Parfois, il faut prendre autorité sur certaines choses, mais beaucoup de problèmes vont être résolus juste en étant près de lui, en l'aimant de plus en plus, en venant qu'à le connaître de plus en plus. Son cœur va nous être transmis, on va venir qu'à vouloir, à désirer les choses que lui désire parce que on va toujours ressembler à ceux avec qui on est régulièrement. On va venir qu'à agir comme eux. Et quand tu vas être près de Dieu, tu vas venir qu'à penser comme lui, agir comme lui. Et c'est tellement puissant. Alléluia pour la libération des choses de ce monde.
Amen. Ça me fait penser à une personne avec qui je parlais un jour, une personne qui croit en Dieu, qui a une certaine relation avec Dieu, qui reste à un niveau très, très superficiel. Et je l'encourageais vraiment à se donner entièrement à Dieu, à vraiment lui donner toute sa vie, à s'abandonner. Et puis cette personne m'a répondu, oui, mais comment je vais faire? J'aime tellement aller danser, je pourrais plus aller danser dans des fêtes, etc. Ça a été la réponse. Et comme on voit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Réellement, il y avait cet attachement à des choses du monde, le fait d'aller danser, et je lui expliquais, mais en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu vas te donner pleinement à Dieu, tes désirs vont changer. Ouais, ça va pas te manquer. Les choses du monde ne vont pas te manquer.
C'est surnaturel. Ça
va pas être une perte pour toi. Ça va être un gain. Et puis, tu vas pouvoir danser dans l'église. Tu vas pouvoir célébrer dans l'église. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et comme tu l'as dit au début, il y a des choses qu'on peut aimer. Mais le problème, c'est cet attachement au monde. Qu'est-ce que les choses du monde te procurent? Cet attachement du cœur qui fait que quand tu as le choix entre une chose qui est spirituel et une chose du monde, ton cœur va automatiquement aller vers les choses du monde. C'est là où il y a un problème parce qu'il n'y a plus d'équilibre. Dieu doit être le premier, doit avoir la priorité. On peut s'amuser, on peut passer du bon temps, on peut avoir du plaisir, se rencontrer entre amis, regarder un film de temps en temps, des choses comme ça, on peut. Mais est-ce que c'est ta priorité? Et c'est là cette grande différence qu'il y a entre les deux. Et j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour qui est aujourd'hui dans Jacques 4:4. Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu.
Amen. Là encore, dans ce verset, on voit qu'il est question d'une amitié.
Oui.
Soit l'amitié du monde, soit l'amitié de Dieu. On voit même dans des couples qu'il y a des hommes, par exemple, qui aiment beaucoup être avec leurs amis, qui font des activités, ça va être le foot, ça va être la bière, ça va être des choses comme ça, et qui s'ennuient avec leurs épouses juste parce qu'ils passent pas du temps avec. Et lorsqu'on commence à passer du temps avec, à être l'ami d'eux, on commence à vivre des choses exceptionnelles qu'on ne vit pas juste parce que on s'y est pas intéressé. Et lorsqu'on fixe nos yeux sur quelque chose, on commence à désirer, comme David a désiré la femme du riz. C'était une histoire de son regard. Ses yeux n'avaient pas à être là. Lui-même n'avait pas à être là à ce moment-là, mais son regard n'avait pas à être là. Et on voit ça. C'est une histoire d'amitié aussi, une histoire entre j'aime le monde est mon ami, donc je passe du temps, j'investis de l'argent, j'investis de mon talent, j'y investis, ou bien je suis l'ami de Dieu, je commence à investir mon temps, mon talent, mon argent dans cette amitié et bien d'autres choses que je pourrais investir. Et là, on découvre en fait qu'il existe comme un autre monde qu'on ignorait. Les hommes qui passent à côté de leur relation avec leurs épouses en se disant juste c'est hyper ennuyeux, j'ai pas envie de faire ça, je préfère être avec mes potes à boire de la bière, etc. Et puis en fait, à partir du moment où ils commencent à passer du temps avec leur épouse, ils vont avoir d'autres projets et ça va être juste glorieux, ça va être sain et puis ça va être bien plus sain pour leur propre.
Il y a un remplacement, c'est pas un dépouillement, c'est une substitution.
Oui.
Donc faut pas craindre de perdre telle ou telle activité parce que ce qu'on va gagner quand on va s'approcher de Dieu, ça vaut 10 fois plus que ce qu'on a perdu.
C'est ça.
Donc j'allais dire, on a quasiment pas de mérite.
Non.
C'est pas un dépouillement, c'est une substitution pour du mieux.
Et les gens, je dis comme ça, les gens qui ne connaissent pas Dieu, en tout cas les gens dans le monde qui n'ont pas connu Dieu, ils recherchent tellement ces choses-là pour combler quelque chose en fait qui leur manque aussi.
C'est ça.
Quand tu as goûté et quand tu sais ce que tu as, quand tu sais le Saint-Esprit qui est en toi, ton vide est comblé. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Tu essaies de combler des affaires. Mais pourtant, c'est ça. On est appelé vraiment, une fois que tu as vécu la nouvelle naissance, ça change tout. Pour moi, ça change tout.
Vraiment.
Et comme je l'ai dit, je peux pas prêcher autre chose. Je l'ai vécu. Mais d'une façon extraordinaire. Les choses dans ma vie qui devaient partir, toutes ces affaires. Quand j'ai vraiment décidé de m'approcher de Dieu et d'avoir une relation, moi, avec lui, les choses de ce monde, les désirs que j'avais pour aller de toutes sortes de projets, ces choses-là ont parti. J'ai rentré dans ma destinée, dans la volonté qu'il y avait pour moi. Et puis après ça, toutes les choses, ils rentrent en leur place, en fait.
C'est ça. C'est qu'on peut pas être un pied dedans, un pied dehors. On peut pas être entre les deux. Et souvent, on fait ça pendant un moment et puis finalement l'écart se creuse, on peut faire un grand écart si on veut, mais à un moment on va se casser la figure ou on va choisir un des côtés. Et je me souviens d'une amie que j'avais qui avait été élevée chrétiennement, qui avait été élevée dans l'église, et puis c'était même elle qui me faisait la morale quand on était adolescente, quand moi je commençais à mener ma vie n'importe comment. Elle me disait non, il faut pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pendant longtemps elle a été un peu dans l'église et puis un peu dans le monde. Elle a continué comme ça. Aujourd'hui, elle a carrément quitté l'église. Elle est vraiment uniquement dans le monde. Et puis, elle est malheureuse, je le sais. Elle n'est pas épanouie parce qu'elle avait des projets. Elle sait ce que Dieu avait pour elle, mais elle n'a pas réussi à prendre une décision, à choisir. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est une affaire de décision, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie, de quel côté je choisis de me positionner. Une fois qu'on a choisi, comme tu l'as dit, toutes ces choses pâlissent, en fait. Quelque chose qui devient pâle, c'est quelque chose qui n'a plus de saveur, qui devient sans intérêt, en fin de compte.
Même quand tu disais les paroles du chant en anglais, ils s'évanouissent. C'est plus que pâlir, c'est... Ah, il n'y en a plus.
Mon fils, un jour, je lui parlais de cette expression, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et puis il m'a dit, mon fils, il est très intelligent. Il m'a dit, ça n'existe pas, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est toujours rempli de quelque chose, c'est rempli d'air. Donc il dit, ça n'existe pas, et en fait, au final... c'est soit on est rempli du monde, on ne peut pas être
rempli de rien.
Un pied dans l'église, on est toujours rempli de quelque chose, quelque chose.
C'est vrai.
Donc rempli du monde ou rempli du Saint-Esprit. Et la Bible nous montre, au travers de toutes ces aventures qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, nous montre qu'il y a une mentalité de la soif du monde et la mentalité de la soif de l'esprit. La mentalité de l'Égypte, la mentalité de l'esprit. Et on le voit tout au long de la Bible qu'il est question de ça, qu'il est question d'être rempli de quelque chose. Rempli de la présence de Dieu ou rempli de la présence du monde.
Oui, c'est vrai.
Il faut une expérience avec Dieu. C'est tout ce jour-là dans l'expérience qu'on fait avec Dieu. Parce que le monde n'a rien à nous offrir. Le monde ne vaut rien. Le monde sans Dieu, c'est rien. C'est le chaos, c'est la désolation.
Ouais.
Mais nous voulons, et on a pris la décision, on a fait le choix de vivre avec Dieu. Et on sait qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, on va le rencontrer.
Amen.
On sera tous ensemble, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, tous ceux qui ont cru en lui sans l'avoir vu, on sera tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit qu'on le verra face à face.
Oui.
Et je voudrais encourager ceux qui aiment les choses du monde à se détacher de ces choses du monde et à rechercher vraiment ardemment, avec beaucoup de force, d'intensité, de faire une expérience avec Dieu. Vraiment vivre quelque chose avec Dieu. Moi, ça s'est passé à 19 ans, j'avais été dans l'église, j'étais même sauvé. J'avais été baptisé du Saint-Esprit, mais à 19 ans, c'est là où le Seigneur il s'est mis sur mon chemin comme l'ânesse devant le prophète. Et il m'a arrêté, il m'a dit, mais Jérémy, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Là, à 19 ans, c'est un temps aussi assez particulier.
Oui.
Et mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus, et là tout a été, comme tu le disais, ça m'a amené dans un chemin nouveau, une destinée glorieuse, et toutes ces choses, toutes les convoitises, l'orgueil, l'amour pour le monde, pour les femmes, et toutes ces, en un instant, tout est parti.
Je pense que le problème de fond, c'est qu'on n'a pas, quand on est affectionné aux choses du monde, c'est qu'on n'a pas compris l'éternité. On n'a pas compris ce qui nous attend dans l'éternité, et on n'a pas nos yeux fixés dans cette direction-là.
Ouais.
Et il suffirait vraiment de... Souvent, on l'entend, hein, des gens qui, par exemple, passent, frôlent la mort dans un accident, ou dans une circonstance, ou voient mourir des proches, relativisent beaucoup après. Et ils voient d'un autre œil leur vie, et puis tout ce qu'elle peut leur apporter. Et puis, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne voient pas du tout l'intérêt de se détacher des choses du monde, essayez de réfléchir à l'éternité.
Oui, vraiment.
Parce que quand on a les yeux sur l'éternité, les choses du monde, elles sont tellement passagères, éphémères. En un claquement de doigts, on peut les perdre.
La Bible dit que dans l'Apocalypse, que l'Église, elle se prépare. Elle se prépare et aussi elle se revêt. Elle se revêt d'un habit particulier, c'est un habit de fin lin. Et la Bible dit que ce fin lin, ce sont les œuvres des justes. Et effectivement, on doit penser à l'éternité, parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la terre aura des répercussions.
Ah oui.
Que vous fassiez le mal, ça aura des répercussions. Que vous choisissiez le bien, ça aura aussi des répercussions. Aujourd'hui, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et je voudrais encourager tous ceux qui n'ont pas encore fait une expérience personnelle avec Jésus à dire, mais aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles. Ouais. Même si mon cœur ou ma chair ne désire pas ces choses, au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui résonne à l'écoute de ces paroles que j'entends aujourd'hui. Et je voudrais tellement faire une expérience avec Dieu. Je voudrais que ce soit surnaturel. Et je voudrais vous encourager à avoir cette soif, cette aspiration, à vous qui écoutez. Ce sera pas vous qui allez le faire, mais ce sera lui. Faites une expérience surnaturelle avec Dieu. Dites à Dieu, je ne peux pas me sauver moi-même, j'aime le monde, mais je veux que ça change. Je veux faire une expérience surnaturelle avec toi. Et je vous encourage de tout mon cœur, criez à Dieu aujourd'hui, criez à Dieu, criez vers lui, dites-lui, mais je veux vivre une vie nouvelle. Je veux être sauvé, je veux être transformé. Je veux manger, goûter à Christ, goûter à cette vie nouvelle que tu as pour moi.
Amen.
Je dis aussi juste
oui, très rapidement,
que l'évangile ne nous laissera pas sans activité. Alors ceux qui croient qu'ils vont s'ennuyer en servant Dieu, c'est faux.
Ah,
il dit que l'évangile ne nous laissera pas sans activité.
On en est témoin.
Pardonne-moi.
Ce n'est rien. On va continuer et on va voir comment Annabelle, que vous connaissez tous et vous aussi à la maison, vous la connaissez, elle, quel a été son cheminement et comment elle a rencontré le Seigneur et comment elle a renoncé aux choses du monde pour suivre le Seigneur. Vous allez voir, son témoignage est vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite à venir avec moi dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, dans la rubrique « C'est mon histoire », j'ai Annabelle avec moi. Bonjour Annabelle.
Bonjour Evelyne.
Ça va?
Oui.
Annabelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, bien qu'à mon avis tout le monde te connaisse, tu es Annabelle Sourdril, la femme de Jérémy Sourdril, et tu es, attention, la vice-présidente des ministères Enseigne-moi, quand même.
Et l'animatrice de Parole de Femmes.
Et l'animatrice de Parole de Femmes, accessoirement, oui.
Bon.
Ah, t'es beaucoup de choses, en fait. Hein.
Merci.
Et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est le grand scoop. Mm-hmm. Annabelle, tu vas nous partager ton témoignage de conversion et je suis super contente parce que même moi, je tiens à vous le dire, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps en version complète. Donc, je vous partage un petit peu l'exclusivité là.
Mm-hmm, c'est sûr.
Vous allez voir, c'est un super témoignage. Et Annabelle, pour situer le contexte, toi, tu as été adoptée quand tu avais 4 mois, tu es née en Corée. Mm-hmm. Et donc, tu es arrivée dans une famille en Bretagne. Et puis, tu as eu un frère aussi qui a été adopté à son tour. Et tes parents ont divorcé quelques années plus tard quand tu étais adolescente.
Mm-hmm. Quand j'avais 10 ans.
Quand tu avais 10 ans. Et puis ensuite, tu as eu une adolescence assez normale, rien d'extraordinaire. Et puis, finalement, tu es allée à la fac. Et puis là, à la fac, les choses ont un petit peu changé.
Mm-hmm. C'est vrai que pendant mon adolescence, j'étais assez tranquille. Et puis, arrivée à la fac, j'ai découvert tout un monde. Le monde de la fête.
Le monde des sorties.
Ouais, exactement. Et j'ai découvert que j'étais assez bonne, en fait, pour faire la fête.
Non, mais ça avait un talent particulier.
Ça a comme été une découverte quasiment de vocation. D'un seul coup, ma vie, c'était la fête, sortir. C'est quand la prochaine soirée, c'est quand le prochain événement. C'était les jeudis étudiants. Et chaque soir, rester chez moi était un soir où je vivais un échec profond. J'avais besoin de sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Tu nous avais parlé dans une émission, mm-hmm, de Bonjour chez vous, tu parlais de la solitude, que tu détestais être seule, ouais, et c'est ça, t'avais besoin vraiment d'être avec des amis tout le temps, en fait.
Oh oui, puis je me sentais bien quand je faisais la fête, on rigolait bien, et puis j'étais appréciée dans les fêtes parce que je faisais bien la fête. Et franchement, ça a duré comme ça pendant un ou deux ans. Et mes études, alors par contre là c'était complètement la catastrophe parce que bon, tu comprends, fallait faire un choix entre se lever le matin et aller faire la fête. Et ma vision là dans la vie, j'en avais pas en fait, mais du coup c'était chaque jour je me levais, ok, qu'est-ce qu'on fait ce soir, mais je me levais, j'avais déjà manqué ma journée de cours, donc c'était pas, j'allais, en tout cas je vois pas où ça aurait pu me mener, il y avait pas vraiment d'aboutissement à tout ça. Et puis dans une soirée de fête, encore, mm-hmm, une fois, j'ai été invitée un vendredi soir. Et là, j'ai rencontré mon cher mari, celui qui est devenu mon mari, Jérémy. Dans une soirée, et une petite soirée où il n'y avait pas beaucoup de monde. Et en fait, là, on s'est rencontrés et puis je le trouvais vraiment beau.
Ah, on va le dire. Ça, c'est important. Hein. Ouais. C'est un bon point de départ pour une relation quand même.
Ouais, j'avoue, je sais, il est mignon, lui.
Mais il était un peu bizarre quand même.
Un petit peu. Et oui, un petit peu, en effet. Et en fait, on s'est revus pas longtemps après. Et quand on s'est revus, il était toujours aussi beau, mais il me parlait de Dieu. Il me dit, ouais, toi, tu crois en quoi et tout. Je me dis, ah, c'est spécial comme conversation.
Oui, vraiment.
Et je dis, bon, écoute, s'il veut en parler, on peut en parler. Moi, j'avais fait ma première communion, j'avais été quand même...
Ouais, t'avais étudié dans un collège catholique, toi?
Oui, j'ai fait toutes mes études dans des écoles privées. Et c'est ça, j'avais quelques bases. Mm-hmm. J'étais pas du tout réfractaire. Ah, non, moi, je crois pas en Dieu et tout. Je croyais en Dieu, je croyais en tout. Mm-hmm. Je croyais aussi dans des choses, les trucs occultes. J'avais des amis qui tiraient les cartes, mm-hmm, qui faisaient tourner les pendules, etc. Ouais, ouais. Enfin, dès, je veux dire, j'étais genre la fille ouverte à tout. Mm-hmm.
Mais t'étais intéressée par Dieu, parce que c'est ça, lui, quand il te parlait de Dieu, tu lui posais des questions, en fait.
Ouais, mais en fait, c'est parce que j'avais jamais rencontré un jeune qui parlait de Dieu de cette façon-là. À moi, on m'a parlé de Dieu, mais c'était des bonnes sœurs, c'était les curés, enfin, tu vois, c'était à l'école, à l'église, mais jamais j'ai rencontré un jeune qui aimait Dieu juste pour lui-même, quoi, mm-hmm, et qui, de son plein gré, t'en parle alors qu'il pourrait te parler d'autre chose. Et c'était la première fois, je lui ai dit, c'est quand même spécial.
Mais ça t'a pas fait peur? Tu t'es pas dit, il est bizarre, il est dans une secte ou je sais pas quoi? Tu t'es pas dit ça?
Il était mignon.
Heureusement qu'il était beau, en fait. Oui. Ça a tout sauvé, là.
Mais qui était mignon, je me dis, ah oui, c'est mignon quand il parle de Dieu aussi. mais c'était vraiment intéressant. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un de passionné, même quand ça te passionne pas quelquefois, sa passion te communique quelque chose. Mm-hmm. Et en fait, lui, au fur et à mesure qu'il me parlait de Dieu, puis je posais des questions et tout ça, il voulait me montrer dans la Bible. Alors là, j'ai ressorti un petit évangile que j'avais eu. Okay. Il me montrait des versets et tout. Et il avait des réponses, il avait des expériences. Il me parlait comme s'il me parlait de quelqu'un qu'il avait connu, en fait, qu'il connaissait. Et ça m'intriguait vraiment. Ça m'intriguait plus que ça me faisait peur.
Et ce qui est fou, c'est que lui, en plus, il était un petit peu rétrograde à ce moment-là, en fait. Il était, parce qu'il était à cette fête aussi. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait à cette fête? Mais en fait, lui, il aimait Dieu. Mm-hmm. Mais en fait, sa vie, il allait pas vraiment à l'église à ce moment-là. Puis sa vie était plutôt en désordre. Mais malgré tout, il te parlait de Dieu comme s'il était en feu, en fait.
Ah, bah oui, complètement. Il me parlait de Dieu. De mon point de vue à moi, même s'il était rétrograde, c'est clair qu'il avait l'air d'être le gars le plus chrétien que j'avais rencontré de ma vie. Mais c'est vrai qu'en y repensant, à ce moment-là, dans sa vie, c'était un petit peu n'importe quoi. Ouais. Et le fait de m'avoir parlé, ça a rallumé en lui ce feu. Et au fur et à mesure des semaines qu'il me parlait de Dieu, au bout d'un moment, il me dit, je vais retourner à l'église.
C'est ça, souvent, quand il partage son témoignage, il dit que tu es celle qui l'a ramené à Dieu, en fait.
Amen.
Ben oui. Mais parce que c'est ça, il a commencé à retourner à l'église parce qu'à force de te parler, ça a rallumé cette soif en lui. Et toi, est-ce que tu l'as accompagné tout de suite à l'église?
Non, et tu sais pas quoi? C'est que moi, j'avais vraiment envie d'aller à l'église avec lui parce qu'il m'avait comme donné soif. Mm-hmm. Mais il m'a pas invité à aller à l'église avec lui.
Bah bravo, Jérémy.
Et sérieux, j'avais vraiment envie d'y aller pour voir. Ça avait l'air d'être spécial et j'avais vraiment envie d'y aller, mais j'osais pas lui demander est-ce que je peux aller à l'église avec toi. Et je pense que lui osait pas me demander d'aller à l'église avec lui, genre pour pas mettre de pression et tout ça. Peut-être qu'il voulait que ça vienne de moi, mais moi, je n'osais vraiment pas. Et finalement, un jour, il m'a dit, est-ce que tu voudrais venir à l'église avec moi?
Oui, j'attendais que ça.
La plus belle des invitations.
Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire pour une première fois à l'église.
Oui, parce que donc, il m'avait parlé du Seigneur, puis vraiment, ça avait commencé à éveiller quand même quelque chose en moi, puis j'en avais parlé à l'époque à ma belle-mère, la femme de mon père, et j'en avais parlé aussi à une amie. Puis elle m'avait dit, les deux, quand même, fais attention, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur, tu vois, d'un seul coup, t'as rencontré un gars qui te parle de Dieu, tu vas aller à l'église. Mais je vais à l'église, et là, il y a une dame âgée dans l'église, madame Ricard, qui commence à parler tout fort dans l'église et qui dit quelque chose, oui, tu as parlé à la femme blonde âgée, tu as parlé à la femme, à la jeune femme qui tire les cartes, fais attention, etc. Je me dis, attends, c'est pas possible, c'est ma vie.
C'est ta vie, ouais.
Parce que j'avais parlé à ma belle-mère qui était blonde et qui était d'un certain âge et à mon amie, la jeune, et qui tirait les cartes.
Ah, c'est fou.
Et c'était, mais vraiment ma vie, j'étais là, j'avais envie de pleurer, mais je savais pas quoi penser, comment faire et tout, mais c'était, je pense, la première fois que je réalisais, Dieu me voit, Dieu me connaît, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et ça m'a vraiment, vraiment interpellée.
Mais c'est pas pour autant que tu t'es donnée au Seigneur.
Non.
T'as cru que Dieu vraiment existait, qu'il était réel et qu'il te connaissait.
Oui, et puis je pense que si tu m'avais demandé à l'époque, est-ce que tu penses que t'es sauvée? Est-ce que tu penses que t'aimes Dieu? J'aurais dit oui, j'aime Dieu. Là, j'avais envie d'aller à l'église, je commençais un petit peu à lire ma Bible.
Ouais.
Tu sais, j'avais envie de faire des choses différemment. J'avais envie d'être chrétienne, mais j'avais juste envie. Mais l'appel du monde était vraiment très, très fort.
C'est ça.
Et comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup faire la fête. Mmh. Donc en fait, le jeudi, le vendredi, le samedi, là, je faisais la fête et tout, je sortais. Et le dimanche, j'allais à l'église. Mais j'étais vraiment contente d'aller à l'église. Et c'est juste que quand j'étais à l'église, je me sentais mal parce que je me sentais vraiment reprise, en fait, de ma vie. Et j'avais pas envie de laisser ma vie. J'avais envie d'aller à l'église et puis de vivre cette vie chrétienne. Mm-hmm. Mais ça m'avait l'air compliqué, ça m'avait l'air difficile. Mm-hmm. Je me dis, non, tu sais, faut tout arrêter.
C'est ça, renoncer à tout ça.
T'arrêtes de voir tes amis, va falloir que t'arrêtes de sortir. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ça va être ennuyeux. Mmh. C'est bien, quoi, venir le dimanche à l'église 2 heures, mais après, il y a toute la semaine, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça me semblait, impossible, en fait. Ce choix-là, j'étais tiraillée, mais vraiment, dans mon cœur, je préférais choisir les choses du monde. Ça me semblait une valeur plus sûre.
C'est ça.
Je me dis, c'est chouette d'être chrétien. Mais c'est peut-être pas pour moi, peut-être pas pour tout de suite.
De temps en temps, mais je garde ma petite vie. Tu gardais ta petite zone de confort,
ouais,
en fait.
Exactement.
Et puis là, avec Jérémy, vous étiez en relation, donc il commençait à avoir des sentiments, tout ça. Et puis tout à coup, c'est la catastrophe, ça va plus et vous êtes séparés.
Oui, bah, ça va pas être si catastrophique quand ça s'est passé.
Mais... bah, lui, pour lui, oui. En tout cas, quand il en parle, ça allait plus que pour toi.
Mais parce qu'il me parlait, mais finalement, je lui ai rendu service. Hein, parce qu'il aurait dû faire un choix à ce moment-là. Oui. Lui, il s'approchait vraiment, vraiment du Seigneur.
C'est ça, parce que lui, il a rencontré Michael.
Oui, il a rencontré Michael, mm-hmm. il a rencontré Alain Patrick. Mm-hmm. Alors là, je te dis pas, c'était les rencontres explosives. Et ils avaient envie de prier, ils avaient envie de, d'aller évangéliser, mm-hmm. ils avaient, enfin, bref. Alors, je me dis, bah, vraiment, là, nos
ça devient trop intense pour moi.
Se détache quand même, je veux bien aller à l'église. Bah, alors, là, ça devient un peu extrême, leur truc. Et puis, du coup, bah, c'est ça, on s'est séparés. Puis j'ai dit, bon, bah voilà, c'est fini. Et c'était juste avant l'été, moi j'allais travailler en Angleterre l'été.
Ouais, c'est ça, tu partais pendant deux mois, c'est ça?
Je partais pendant deux mois. Mm-hmm. Et puis, bizarrement, avant de partir, je m'étais dit, alors là, c'est deux mois, Annabelle, tu vas tout donner.
Mais dans le mauvais sens du terme, je vais faire la fête, je vais profiter de la vie.
Faut que je profite à fond et tout. C'est comme si j'avais découvert qu'il pouvait y avoir une limite dans ma vie. Okay. Et je me suis dit, non, j'ai vraiment envie de franchir la limite. Je veux vivre à fond mon été. Mm-hmm. Et je suis partie en Angleterre mm-hmm. avec cette idée de faire la fête. Et j'arrive dans la chambre où je dormais et il y avait une bible dans le tiroir. Et en fait, j'étais quasiment une des seules à avoir une bible dans le tiroir.
C'est fou.
Déjà, je me dis, ouais, c'est un peu de l'acharnement, franchement.
C'est clair. Arrête de me poursuivre, oui. Jésus. Je sais que t'existes, laisse-moi tranquille. Là, j'ai deux mois, je veux faire la fête. C'était vraiment ça, quoi.
Oui, vraiment. Mm. Et en fait, je faisais la fête le soir et quelquefois, je rentrais dans la chambre. J'étais pas dans mon état naturel. Mm-hmm. Il était tard et je prenais quand même la Bible. En anglais, l'évangile en anglais, et puis je lisais des trucs et ça me parlait en plus.
C'est fou, hein.
Et une fois, je me souviens, j'étais là après avoir fait la fête toute seule dans ma chambre avec la Bible et j'ai dit, bah, Jésus, je sais que tu existes, ça commence bien.
Oui.
Mais laisse-moi tranquille.
Ah, parce que t'avais vraiment l'impression qu'il te poursuivait.
Ben oui, c'était comme, je veux faire ma vie. Enfin, franchement, ailleurs, on a fait connaissance, mais ben voilà, tu vois, on fait chacun notre vie.
C'est affreux comme prière. Terrible.
Et puis, il y avait un gars qui était là-bas en Angleterre. Oui. Et en fait, tu sais, les gens qui vont là-bas, c'est des jeunes, c'est un travail saisonnier, ils vont tout là-bas pour se faire un peu d'argent et faire la fête. Mm-hmm. Mais il y avait un jeune qui avait l'air illuminé comme les autres jeunes que j'avais laissés en France, voire un peu plus, et qui s'appelait Jamie. Mm-hmm. Et déjà, ça m'avait fait un peu rire parce que j'avais laissé Jérémy et Michael, qui étaient tous les deux des pôles et des pierres pour l'évangile. Et là, Jamie, je me dis, ah, c'est trop bizarre. Et il m'énervait, tu vois, rien qu'à cause de son nom, il m'énervait.
Déjà là, il n'y avait pas de bol.
Et tout le monde disait qu'il était complètement illuminé, il avait des versets dans sa chambre, il parlait de Dieu aux gens, etc. Bon, je le trouvais illuminé, mais j'avais un peu de respect pour lui parce que, tu vois, j'avais
tu
quand
savais.
Même... j'avais vu d'autres gens avant un peu illuminés. Mmh. Et puis un soir, on faisait encore une fois la fête, et là, je parle avec lui, je sais plus du coup tout de qui, de quoi. Et puis le gars vraiment audacieux, je me dis, il était vraiment audacieux. Il me dit, bah, je vais prier pour toi, tout ça en anglais. Hein.
Ouais.
Il me dit, je vais prier pour toi. Et puis il se met à m'imposer les mains au milieu d'un groupe. Tu sais, c'est vraiment la grosse fête, il y a de la musique et tout. Lui, il m'impose les mains. Et là, à ce moment-là, je me mets à pleurer.
Wow.
Et en fait, j'aurais pas pu l'expliquer, mais c'était la présence de Dieu qui est venue sur moi. Et encore une fois, j'ai vraiment voulu résister. Et j'ai dit, non, c'est bon, arrête. Et puis, tout le monde se dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Annabelle et tout? Bah, je voulais rien raconter de toute manière, moi. Je dis, ah, non, c'est bon. Et c'est passé un peu inaperçu, mais moi, ça m'avait un peu traumatisé. Bah, je me dis, mais c'est incroyable, ce truc. Et vraiment, encore une fois, je me dis, mais Dieu me poursuit de partout. Et bon, le voyage en Angleterre se termine, je rentre. Finalement, je revois Jérémy qui me raconte que Gwen, mon beau-frère, s'est donné au Seigneur.
Que et ça, mon beau-frère c'est a un événement Jésus. Important pour
oui.
toi.
Oui. Alors là, je me dis, si Gwen a pu le faire, si ça a été possible pour Gwen, c'est possible pour moi aussi. Parce que je trouvais que Gwen, bah, tu sais, il avait une vie qui avait l'air cool.
Ouais, c'était un gars vraiment cool,
ouais,
très populaire
dans la ville.
C'était un
gars populaire, il chantait, il faisait des concerts, etc. Et s'il y a une personne à qui je pouvais mieux m'identifier, c'était lui, bien que je ne chantais pas et que je n'étais pas du tout populaire.
Mais t'étais cool.
Mais c'est juste que les autres, je les trouvais un peu différents quand même. Je me suis dit, ah bah si Gwen a pu le faire, bah je suis sûre moi aussi je peux le faire. Et là, Jérémy m'a invitée à des réunions de jeunes et... pendant les réunions de jeunes avec Alain Patrick, ah, mon cœur m'est bouillonné, c'était quoi.
On a quelques photos des réunions de jeunes, justement, on peut les regarder là.
Bon,
vous étiez tous tout jeunes.
Quelques personnes.
On voit Michael, on voit Alain Patrick Senguer, on voit Jérémy, on te voit toi
Jérémy,
en bas aussi.
Gwen. Et les gens, les Chinois sont pas du tout de ma famille. Hein. Mais, Et en fait, mon cœur bouillonnait pendant les réunions de jeunes, c'était fou. Mais j'avais encore vraiment ce combat de dire, ah, j'ai ma vie, j'ai mes sorties, j'ai mes amis. J'arrivais pas à prendre cette décision. Et un dimanche matin, à l'église, tous les jeunes étaient là.
C'était en 2003, ça, c'est ça?
En 2002.
En 2002, okay.
En 2002. En janvier 2002, j'ai rencontré Jérémy pour la première fois l'été, donc je suis partie. Et puis là, vers septembre, je vais donc à l'église. Et tous les jeunes sont là. Jérémy prie, Michael prie, Alain Patrick prie, il prie fort et tout. Et là, d'un seul coup, je me dis, c'est ça que je veux. Mmh. Là, c'est vraiment ça que je veux. Et il n'y avait plus aucun doute dans mon cœur. C'était plus, je suis tiraillée, je suis partagée. Je dis, non, c'est vraiment ça que je veux. Et là, Madame Ricard encore, elle se met à prophétiser et elle dit, tu vois les fruits de l'autre côté de la barrière et tu voudrais toi aussi être de l'autre côté de la barrière. Passe mon enfant, etc. Jésus, le chemin, la vie, la vérité. Je sais que c'est pour moi et je suis toute seule à ma place avec ma grosse écharpe blanche et je me mets à pleurer et toute seule dans mon cœur à l'église, j'accepte le Seigneur. Je dis, Jésus, c'est toi que je veux. C'est cette vie-là que je veux. C'est toi que je choisis. Et je suis sortie de l'église. Il n'y a pas eu d'appel. J'ai accepté Jésus toute seule dans l'église. Je suis sortie de l'église. J'étais vraiment quelqu'un de différent. Je suis rentrée chez moi. J'ai dit, j'arrête de fumer, etc. J'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça. Et puis, quelques temps après, je me suis faite baptiser.
Oui, on a une photo aussi de ton baptême.
Je me suis faite baptiser. J'avais fait venir mes amis, mes amis d'avant.
Amis d'avant.
Et eux, je pense qu'ils avaient eu une meilleure compréhension de ce qu'était le baptême. Ils m'ont dit, en tout cas, là, Annabelle, pour nous, t'es morte. L'ancienne Annabelle est morte.
C'était le cas, oui.
Ouais, sur le coup, ça m'a un peu fait de la peine. Oui. Mais je me suis dit, ils ont vraiment compris. C'était vraiment le symbole. Mon ancienne vie était passée. Je renonçais à toute mon ancienne vie. Et pas avec tiraillement. Vraiment avec joie. Je savais que c'était la meilleure des choses que je pouvais faire. Et puis, peut-être qu'une fois, on en reparlera. Mais j'avais pas vraiment les meilleures perspectives
de vie
d'un point de vue émotionnel, affectif et tout ça. Et vraiment, le Seigneur m'a tout donné, m'a comblé. Jérémy et moi, on s'est mis officiellement ensemble, on s'est fiancés.
Wow.
Et puis on s'est mariés un an plus tard. On s'est mariés. Donc voilà, on avait 20 ans, on était jeunes, ça faisait pas du tout partie de mes plans de vie de me marier un jour à 20 ans. Et puis aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'on est mariés.
Ah,
on a une petite grande fille de 12 ans.
Oui.
Et Dieu a vraiment comblé mon cœur, Dieu a comblé toutes mes insécurités parce que oui, je faisais la fête, oui, je faisais ci, oui, je faisais ça, mais honnêtement, j'étais une jeune fille un petit peu perdue, un petit peu sensible et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Puis j'avais vraiment peur en fait d'échouer et j'allais tout droit vers l'échec, mais j'avais peur de jamais rencontrer quelqu'un, j'avais peur de jamais réussir dans la vie, enfin j'avais vraiment tout un tas de peurs et le Seigneur est venu combler toutes mes peurs à ce moment-là. Il m'a donné un avenir, il m'a donné une espérance, il m'a donné de la joie, il m'a absolument tout donné à ce moment-là et plus que tout ce que j'aurais pu imaginer.
Ouais, vraiment, vraiment, moi souvent je te dis que t'es un miracle. T'es vraiment un miracle parce que c'est clair que ta vie était mal partie au début vraiment. Le diable avait des plans pour toi, c'est certain. Il avait vraiment des projets de destruction sur ta vie. Et puis, ça aurait pu être une histoire tellement triste. Et en fait, Jésus est venu au milieu de tout ça. Et puis, tu t'y attendais pas du tout. Et il est passé par des chemins qu'on n'aurait pas soupçonné non plus. Il t'a vraiment poursuivi. C'est vraiment ça. Il t'a vraiment poursuivi. Et puis, c'est juste magnifique de voir aujourd'hui la vie que tu as, ce que tu es devenu et ce que Dieu va faire encore avec toi, c'est extraordinaire. Et puis, que si vous êtes à la maison, vous vous dites, moi aussi, je me retrouve dans ce témoignage qu'Annabelle a partagé. C'est ma vie qu'elle a décrite. Sachez que c'est possible pour vous aussi, Annabelle, si tu veux bien pouvoir parler à ces personnes qui s'identifient à toi et puis pouvoir leur dire quoi faire s'ils veulent accepter le Seigneur aujourd'hui, parce que le jour du salut est disponible pour eux aussi aujourd'hui.
Amen. Donc, si toi aussi, tu veux faire cette rencontre exceptionnelle qui a changé ma vie, tu peux tout simplement te tourner vers Jésus, lui dire, Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. Et lui, tout simplement lui dire cette prière-là avec vos mots. Viens dans mon cœur maintenant. Viens prendre le contrôle de ma vie. Je te donne tout. J'accepte de tout te donner parce que je sais aussi que tu as le meilleur pour cette vie et pour la vie éternelle. Et sincèrement, cette vie sans Jésus ne vaut pas la peine d'être vécue. Et je n'ai jamais eu un seul regret d'avoir choisi Jésus. Et je prie que ce soit la décision de votre cœur aujourd'hui et que vous puissiez vous aussi expérimenter ses plans.
Amen, amen. Vraiment, je vous encourage à prendre cette décision, à renoncer vraiment à toute votre vie. Ça coûte sur le coup, mais vous n'allez pas le regretter, c'est certain. Merci beaucoup, Annabelle, d'être venue nous partager ton témoignage. C'était formidable.
Ben, merci à toi.
Jérémy, un témoignage merveilleux de ta chère et tendre épouse. Tu connaissais tout ?
Oui.
Oui, bien entendu. Hein.
J'étais là, au commencement.
J'étais là, au commencement. Effectivement, tu as été un agent de bien pour sa vie. Et on rend vraiment gloire à Dieu pour ça. Et puis, je vous invite à la maison, donc à vous aussi, pouvoir faire cette démarche vers le Seigneur et à vous donner pleinement, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure dans l'émission. Et comme Annabelle l'a fait. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons encore avoir des émissions formidables que je vous invite à ne pas manquer. Je vous souhaite un excellent week-end et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.